これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jaizan Taous.
Et à la réalisation, comme d'hab, François Connac. Que diriez-vous si un jour, si une nuit, un ange ou un démon vous disait « Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Désir, et tes désirs seront accomplis, mes règles, tes souhaits sur ta vie, elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. » Que prenez-vous, la bête ou la tête? Signez-vous le contrat? Où se trouve ici la bienveillance qu'un homme doit avoir envers lui-même? Dans le pacte avec le diable ou dans le goût bizarre de la vertu? Dans la peau de chagrin qui exauce les souhaits mais raccourcit les jours? Ou dans la douleur indéfinie de désirer à jamais plus qu'on ne peut?
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
La peau de chagrin est un roman de l'urgence qui voudrait arrêter le temps. Marqué sous le sceau du Tristram Shandy et de sa liberté, citant à volonté la sagesse vive des géants rabelaisiens, le roman de Balzac souscrit pourtant au pacte inéluctable des tragédies grecques. Certes, Raphaël de Valentin semble plus proche de Faust que d'Oedipe, mais qu'importe. Il y a dans la folie de ce personnage quelque chose, un je ne sais quoi, aurait dit Balzac, de la destinée des héros qui affrontent une prophétie.
Alors comme c'est bien dit.
J'ai surtout pensé en fait au réel et son double de Clément Rosset.
Au passage sur Oedipe.
Au passage sur les oracles. Il y a quelque chose d'oraculaire et de crépusculaire d'ailleurs aussi dans La peau de chagrin.
Puisque vous nous y emmenez, Paola, avant d'entendre un premier texte de La peau de chagrin, dans le réel et son double et également d'ailleurs dans le traité de l'idiotie, Clément Rosset effectivement revient sur l'oracle d'Oedipe, dont il dit qu'il n'est pas surnaturel, c'est-à-dire que ça n'est pas une parole qui fait advenir quelque chose. Rosset ne souscrit pas à l'idée que un individu, en voulant conjurer le destin qu'on lui prédit, ne fait que le précipiter, ce qui est pourtant l'histoire d'Oedipe. En fait, il dit que l'oracle n'a fait que décrire ce qui est. Et qu'au fond, la trajectoire d'Oedipe, c'est la trajectoire d'un individu qui voudrait échapper non pas à une prophétie, mais à la réalité. Et qui se voit tout surpris quand la réalité se rappelle à lui, parce qu'au fond, c'est la thèse de Rosset, le réel ne revient jamais puisqu'il est toujours déjà là. Et il y a donc là quelque chose, dans le propos de Rosset, de beaucoup plus inéluctable encore qu'une parole providentielle qui viendrait écraser nos volontés individuelles. C'est plus fort que ça, parce que ce n'est pas une nécessité qui relève d'une volonté plus puissante que la nôtre, c'est la nécessité absolue qu'ont les choses d'être ce qu'elles sont. Et puisque vous en parlez, il est vrai que dans La peau de chagrin, nous avons tout l'attirail de la superstition. On a toute la mécanique d'une parole magique qui vient s'incarner avec cette peau de chagrin qui diminue à mesure qu'elle exauce nos désirs. Mais si l'on plonge dans le texte, ce qu'on va faire, et peut-être aura-t-on le temps de détailler un peu cela, si on plonge dans le texte, on s'aperçoit d'un truc tout à fait étonnant, c'est qu'en un sens, il n'est aucun surnaturel dans ce texte. Il n'y a pas de surnaturel, ou plus exactement, on peut complètement lire ce texte comme un texte où, ben voilà, un individu meurt, non pas parce qu'il désire, mais il meurt parce qu'il est malade. Et quant à la peau de chagrin, elle n'est que le prête-nom d'un concours de circonstances qui vaut à ce jeune homme, après avoir voulu se suicider, et bien de rencontrer de bons amis, de partir dans une orgie, puis d'hériter de son oncle et de devenir richissime. Donc il y a la possibilité de lire ce texte hors de tout surnaturel, comme on peut lire le mythe d'Oedipe, ce que fait Clément Rosset, hors de toute parole oraculaire, c'est-à-dire en réduisant l'oracle au simple énoncé de ce qui est et non de ce qui doit être selon une volonté divine.
Et oui, c'est aussi questionner la place du fantastique, en fait, tout simplement dans La peau de chagrin. Mais allons-y peut-être, écoutons le début.
On écoute le début, le presque début, le portrait de Raphaël de Valentin par Honoré de Balzac.
Quelques secrets génies scintillaient au fond de ses yeux, voilés peut-être par les fatigues du plaisir. Était-ce la débauche qui marquait de son sale cachet cette noble figure, jadis pure et brûlante, maintenant dégradée? Les médecins auraient sans doute attribué à des lésions au cœur ou à la poitrine le cercle jaune qui encadrait les paupières et la rougeur qui marquait les joues, tandis que les poètes eussent voulu reconnaître à ces signes les ravages de la science, les traces de nuit passées à la lueur d'une lampe studieuse. Mais une passion plus mortelle que la maladie, une maladie plus impitoyable que l'étude et le génie, altérait cette jeune tête, contractait ses muscles vivaces, tordait ce cœur qu'avait seulement effleuré les orgies, l'étude et la maladie. Comme lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne, les condamnés l'accueillent avec respect. Ainsi, tous ces démons humains, experts en torture, saluèrent une douleur inouïe, une blessure profonde que sondaient leurs regards, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie, à l'élégante misère de ses vêtements. Le jeune homme avait bien un frac de bon goût, mais la jonction de son gilet et de sa cravate était trop savamment maintenue pour qu'on lui supposât du linge. Ses mains, jolies comme des mains de femme, étaient d'une douteuse propreté. Enfin, depuis 2 jours, il ne portait plus de gants. Si le tailleur et les garçons de salle eux-mêmes frissonnèrent, c'est que les enchantements de l'innocence florissaient par vestiges dans ses formes grêles et fines, dans ses cheveux blonds et rares, naturellement bouclés. Cette figure avait encore 25 ans, et le vice paraissait n'y être qu'un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les ravages d'une impuissante lubricité. Les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient, en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Le jeune homme se présentait là comme un ange sans rayon égaré dans sa route.
Ce qu'on vient d'entendre, Raphaël, c'est l'apparition de Raphaël de Valentin, justement, dans la salle de jeu, ce qu'on dirait...
un tripot.
Le tripot,
ouais,
voilà.
C'est le tripot du début, ouais. Oui. Il arrive, il joue ce qui lui reste.
Et c'est un suicide et un sursis qu'on voit là.
Alors, nous sommes tous des morts en sursis. Nous sommes tous des morts en sursis, vous, moi, etc. Bon, nous le savons, nous n'y croyons pas, c'est notre lot quotidien, c'est notre amnésie quotidienne. À l'intérieur de cette amnésie quotidienne, il y a quelques élus, quelques gens plus savants que nous, et il n'est pas dit ici que le savoir apporte la paix, mais il y a quelques individus qui en savent plus que nous parce qu'ils ont, eux, décidé d'en finir, d'accélérer ce mouvement. Et il est extrêmement intéressant de voir, alors Raphaël de Valentin, le roman est ainsi conçu que la première partie le présente au terme des péripéties qui sont racontées dans la deuxième partie, donc péripéties au terme desquelles il décide d'en finir, un amour déçu pour une super mondaine, une femme de la haute, une très haute femme de la haute, Fedora. Et c'est donc cet homme désespéré qui décide de se suicider, qui entre dans le tripot pour jouer ses derniers deniers, ses ultimes louis. Mais cet individu qui veut se suicider, qui veut, comme dira le vieillard qu'il croisera dans la boutique un peu plus tard, détrôner l'ennui, cet individu qu'une erreur engage à mourir, c'est le lot des suicidés, a néanmoins l'œil aiguisé par le suicide qu'il se promet. C'est-à-dire qu'il pose sur le monde un regard que éclaire le sentiment d'avoir à en finir. Le suicide aiguise son regard, c'est un éducateur du regard, puisque c'est un moment où tout ce que nous voyons nous semble soudain détaché d'un enjeu. Nous n'en avons plus besoin, nous n'en avons plus envie, reste une curiosité dont la gratuité aiguise le regard au point de montrer des choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence ou de le rendre attentif à des choses qu'il n'imaginait pas.
Cette façon de penser, de voir la vie, de penser la vie à travers la possibilité du suicide pourrait rappeler la pensée de Suran, par exemple, les essais de Suran.
Ah oui, résolument.
Et je dis ça d'autant plus qu'en fait, il y a un petit détail. Au début de l'extrait qu'on a entendu, on entend un sourire amer dessiné de légers plis dans les coins de la bouche. Et dans le crépuscule des pensées de Suran, Suran dit « Où fleurit mieux le suicide qu'en un sourire ?»
Alors vous avez cité le crépuscule des pensées, on pourrait tout simplement citer les syllogismes de l'amertume. Ou bien le précis de décomposition. Tiens, puisqu'on parle de Balzac, on va lire du Suran. La consolation par le suicide possible élargit en espace infini cette demeure où nous étouffons. L'idée de nous détruire, la multiplicité des moyens d'y parvenir, Leur facilité et leur proximité nous réjouissent et nous effraient, car il n'y a rien de plus simple et de plus terrible que l'acte par lequel nous décidons irrévocablement de nous-mêmes. En un seul instant, nous supprimons tous les instants. Dieu lui-même ne saurait le faire, mais, démons fanfarons, nous différons notre fin. Comment renoncerions-nous au déploiement de notre liberté, au jeu de notre superbe ? Celui qui n'a jamais conçu sa propre annulation, qui n'a pas pressenti le recours à la corde, à la balle, au poison ou à la mer, est un forçat avili ou un ver rampant sur la charogne cosmique. Ce monde peut tout nous prendre, peut tout nous interdire, mais il n'est du pouvoir de personne de nous empêcher de nous abolir. Tous les outils nous y aident, tous nos abîmes nous y invitent, mais tous nos instincts s'y opposent. Cette contradiction développe dans l'esprit un conflit sans issue. Quand nous commençons à réfléchir sur la vie, à y découvrir un infini de vacuité, nos instincts se sont érigés déjà en guide et facteur de nos actes. Ils réfrènent l'envol de notre inspiration et la souplesse de notre dégagement. Si, au moment de notre naissance, nous étions aussi conscients que nous le sommes au sortir de l'adolescence, il est plus que probable qu'à 5 ans, le suicide serait un phénomène habituel, ou même une question d'honorabilité. Mais nous nous éveillons trop tard. Nous avons contre nous les années fécondées uniquement par la présence des instincts qui ne peuvent être que stupéfaits des conclusions auxquelles conduisent nos méditations et nos déceptions. Et ils réagissent. Cependant, ayant acquis la conscience de notre liberté, nous sommes maîtres d'une résolution d'autant plus alléchante que nous ne la mettons pas à profit. Elle nous fait endurer les jours et, plus encore, les nuits. Nous ne sommes plus pauvres ni écrasés par l'adversité, nous disposons de ressources suprêmes. Et lors même que nous ne les exploiterions jamais et que nous finirions dans l'expiration traditionnelle, nous aurions eu un trésor dans nos abandons. Est-il plus grande richesse que le suicide que chacun porte en soi ?
C'est concevoir le suicide comme une fiction, comme quelque chose qu'on ajourne continuellement et d'une certaine manière, pour retourner à la peau de chagrin, qui n'est que l'histoire d'une procrastination du suicide.
Oui et non. Du point de vue de Cioran, on se suicide toujours trop tard. Bon, ce que un lecteur hâtif pourrait lire comme une invitation au suicide. Vas-y, dépêche-toi, c'est déjà trop tard. Dépêche-toi, fais ce que tu peux, suicide-toi tout de suite. C'est déjà trop tard. Mais c'est précisément une lecture hâtive qui lirait là-dedans une hâte d'en finir. Parce que dire on se suicide toujours déjà trop tard, ce qui est une des constantes du propos de Cioran, c'est dire que naître, c'est mourir. Naître, c'est être promis à la mort. On ne possède bien, comme dira Nad Noaï, que ce qu'on doit attendre. Je suis morte déjà puisque je dois mourir. Donc, avoir à mourir, c'est en un sens être déjà mort. Donc, se suicider, c'est aux yeux de Cioran le pire de tous les péchés. C'est pas un crime, c'est pas un meurtre, c'est pas une infamie, c'est pas un bras d'honneur à Dieu, c'est pas tout ça. Non, c'est pire que tout ça, c'est un pléonasme. Et pour un styliste comme Cioran, c'est impardonnable. On ne se suicide pas, puisque se suicider, c'est redoubler la promesse de mourir par une mort effective. C'est donc mal comprendre cette leçon que notre propre mortalité nous donne, qui est une invitation permanente à regarder le monde avec l'indifférence, c'est-à-dire aussi la curiosité qu'il mérite. Cioran s'en défendrait, mais il reprend ici la thèse kantienne d'une beauté désintéressée. On a accès au monde quand on n'est pas concerné par le spectacle dont on admire la beauté. Et de fait, pour en venir à la peau de chagrin, le regard de Raphaël de Valentin est un regard élargi. Au sens où Kant pourra parler même lui-même d'une pensée élargie.
Vous avez parlé de curiosité, c'est justement celle dont fera preuve Raphaël après avoir décidé de ne pas se jeter dans la Seine. On entendra peut-être un passage, mais une fois qu'il rentre dans le cabinet de curiosité, justement, et qui porte bien son nom, et qu'il étale son regard sur tous ces objets, avec l'idée qu'il se suicidera en sortant de ce magasin. Et pourtant, on assiste, enfin, le temps se dilate, il y a tout un pan du magasin qui offre toutes les possibilités d'une fiction, d'un rêve immense, avec l'idée toujours qu'il se suicidera en sortant, ce
Mais
qui est fascinant.
Avant même d'entrer dans le magasin, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois qu'il a perdu ses deux derniers louis et qu'il est sorti, en laissant d'ailleurs aux autres habitués du tripot l'impression d'avoir croisé une sorte de maître en désespoir. On sent, alors c'est très beau d'ailleurs ce passage où Balzac décrit le regard qu'inspire aux autres l'arrivée de Raphaël de Valentin. On le voit comme un... C'est le patron. C'est le patron du désespoir. On sent bien qu'il est là porteur d'un désespoir qui n'est pas une rigolade. Il ne joue pas à être désespéré, il l'est sincèrement, pleinement, profondément. Et alors, quand il sort du tripot, avant de se jeter dans la Seine, bah, il a tout son temps.
Hein. Il chante.
Il chante.
Rossini, oui.
Di tanti palpiti. Tiens, il ne le chante pas, il le siffle. Tiens, d'ailleurs, on va l'entendre un peu, écoutez.
Ainsi, la nature elle-même conspirait à plonger le mourant dans une extase douloureuse. En proie à cette puissance malfaisante, dont l'action dissolvante trouve un véhicule dans le fluide qui circule en nos nerfs, il sentait son organisme arriver insensiblement au phénomène de la fluidité. Les tourmentes de cette agonie lui imprimaient un mouvement semblable à celui des vagues et lui faisaient voir les bâtiments, les hommes, à travers un brouillard où tout ondoyait. Il voulut se soustraire aux titillations que produisaient sur son âme les réactions de la nature physique et se dirigea vers un magasin d'antiquités dans l'intention de donner une pâture à ses sens ou d'y attendre la nuit en marchandant des objets d'art.
Vous voyez, Paola, ce qui est important dans cette histoire, enfin dans ce passage, à mon avis, ce qui est signifiant, en tout cas ce qui va peut-être dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure, c'est l'absence d'intérêt avec lequel il contemple les échantillons de marchandises, puis ensuite les grandes bâtisses, les bâtisses officielles qu'il a sous les yeux. Et cette absence d'intérêt, ce sans beaucoup d'intérêt avec lequel il contemple les choses, détermine chez lui, dans sa propre perception, cette extase douloureuse qui lui vaut d'accéder à ce que Balzac appelle dans des raccourcis, dans un de ces raccourcis fulgurants dont Balzac a vraiment le secret, qui lui vaut d'accéder au phénomène de la fluidité. C'est un brouillard où tout ondoyait. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et je crois qu'il est encore plus intéressant quand on entre dans le magasin lui-même, c'est qu'au fond, et qui renseigne déjà sur la psychologie de Raphaël. Parce que la psychologie de Raphaël est tout entière projetée sur la façon dont il pose son regard sur le monde, et on verra de quelle façon. Raphaël de Valentin est à la fois... en un sens romantique, et on verra de quelle façon il l'est. Il est romantique et il est vigilant. C'est quelqu'un que son romantisme conduit à se griser, à s'extasier, c'est-à-dire aussi à tomber en extase devant lui-même, et in fine à souhaiter de mourir en contemplant l'infinité des trésors humains qu'il découvrira dans le magasin. Mais c'est quelqu'un dont le romantisme n'épuise pas tout à fait la vigilance, l'acuité du regard. L'acuité du regard qui lui vient vraisemblablement de la certitude d'avoir à en finir, qui lui permet de poser paradoxalement un regard virginal sur les choses. Donc il y a ces deux déterminations de son caractère qui apparaissent et qui sont manifestes, je crois, dans la façon dont il regarde le monde. Son romantisme... le renseigne en permanence sur la vanité des œuvres humaines et sur leur splendeur vaine et sur la conclusion que tout cela ne le porte qu'à mourir encore davantage, si j'ose dire. Et dans le même temps, c'est un homme vigilant, c'est un homme au regard aiguisé par le savoir qu'il a accumulé, car c'est un érudit. C'est un homme vigilant qu'il pose son œil sur tout cela, ce qui devient alors vraiment stupéfiant quand il entre dans le magasin.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Alors juste avant d'entrer dans le magasin, j'aimerais revenir quelques instants sur le suicide ajourné de Raphaël. Et j'utilise le mot ajourné avec conscience, puisque c'est juste, il est face à la scène, il s'apprête à sauter, il enjambe pas tout à fait le garde-fou, mais presque. Et puis il a peur, il ne veut pas d'un suicide qui ferait scandale en pleine journée. Il désire un suicide discret. C'est intéressant, non ?
Il résolut de mourir pendant la nuit afin de livrer un cadavre indéchiffrable à cette société qui méconnaissait la grandeur de sa vie. C'est là qu'il est romantique. C'est là qu'il est romantique parce que c'est pas tellement par goût de la discrétion. C'est au contraire par un goût de la grandeur, au fond. C'est la grandeur d'une mort infime. C'est un homme qui revendique l'infimité. Si j'ose dire, je ne sais même pas si ce mot existe, l'infimité, le caractère infime de sa mort, qui le revendique d'autant plus comme un bras d'honneur empanaché qu'il adresse à la destinée qui a été tellement injuste avec lui. Donc, cette modestie, la modestie revendiquée de la mort qu'il se prépare à se donner, est à mon avis l'expression chez lui, encore une fois, d'un tempérament romantique qui voudrait faute de pouvoir prendre ses désirs pour des réalités, ce qu'il va avoir les moyens de faire quand il deviendra détenteur de la peau de chagrin. Donc, faute d'avoir ce pouvoir insensé, ce pouvoir quasiment archétypique, cette capacité de créer immédiatement ce dont il a la représentation, parce que c'est ça que la peau de chagrin lui donnera comme pouvoir, aux dépens de sa vie, faute d'avoir cela, eh bien, il revendique la ténuité de son existence, c'est-à-dire que la seule grandeur à laquelle il a accès, c'est la grandeur de sa petitesse même. Donc, on est là encore, je crois, dans un tempérament exalté. Il y a une forme d'exaltation dans le goût de disparaître, dans le goût de s'abolir. C'est la face obscure du désir que l'on a de posséder le monde entier. Puisque le monde se refuse à ma possession, alors je me noierai en lui. Littéralement. Sincèrement, il me semble que c'est le même caractère, c'est la même disposition du caractère qui lui vaut de vouloir mourir sans faire de bruit, sans scandale. C'est pas de la modestie. C'est la même chose qui lui vaut de vouloir mourir sans scandale. Donc, cette mort, cette immodeste petitesse qu'il revendique et qui lui vaudra plus tard de se prendre pour Néron, Nabucodonosor, César, Dieu. Il existe je ne sais quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide. Les chutes d'une multitude de gens sont sans danger, comme celles des enfants qui tombent de trop bas pour se blesser. Mais quand un grand homme se brise, il doit venir de bien haut, s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir entrevu quelques paradis inaccessibles. Implacables doivent être les ouragans qui le forcent à demander la paix de l'âme à la bouche d'un pistolet. Combien de jeunes talents confinés dans une mansarde s'étiolent et périssent faute d'un ami, faute d'une femme consolatrice, au sein d'un million d'êtres en présence d'une foule lassée d'or et qui s'ennuie. À cette pensée, le suicide prend des proportions gigantesques. Entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelait un jeune homme à Paris, Dieu seul sait combien se heurte de conceptions, de poésie abandonnée, de désespoir et de crise étouffée, de tentatives inutiles et de chefs-d'œuvre avortés. Chaque suicide est un poème sublime de mélancolie. Où trouverez-vous, dans l'océan des littératures, un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec ses lignes ? Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du Pont des Arts.
La chute de Camus.
La chute de Camus, ça vous fait marrer, c'est drôle. La chute de Camus pour mémoire et pour nos auditeurs qui sont si savants. D'ailleurs, il faut les remercier. Hein. Nos auditeurs sont extrêmement savants. Je les remercie, je profite de cela puisque le hasard des enregistrements me permet de le faire aujourd'hui, donc je les remercie avec retard de nous avoir indiqué que la figure de style dont nous parlions à propos de Céline, de ces mots que le sens accolait à un mot alors que la grammaire l'accolait à un autre, s'appelle unipalage. Un ou une d'ailleurs, tiens.
La question que tout le monde se pose.
Oui,
chaque
la
fois
question
Raphaël.
Que tout le monde se pose, c'est comme échappatoire, j'ai jamais su. Chers auditeurs, à vous, là encore, de nous éclairer sur ce sujet. Nous n'avons pas de dictionnaire à l'instant où nous enregistrons cette émission. Bref, c'est la chute. C'est la chute de Camus. Ce passage-là a inspiré très certainement la chute à Camus, l'épisode cardinal de la chute, c'est-à-dire le moment où Jean-Baptiste Clamence voit, alors qu'il rentre chez lui, qu'il est tout content, une jolie nuque, alors c'est pas le Pont des Arts, c'est le Pont Neuf, penchée sur la Seine, juste avant de passer son chemin et d'entendre le bruit d'un cri puis d'un corps qui s'abat dans la Seine, et de ne pas bouger, de ne prévenir personne parce qu'il se dit qu'il est trop tard. Épisode fondateur dans la vie de Jean-Baptiste Clamence, puisqu'elle lui ouvre le cœur, littéralement, en lui proposant de rencontrer le monde, en fait, en lui imposant de rencontrer le monde, et qui fait de ce jeune homme qui jusqu'ici était un avocat brillant, qui refusait la Légion d'honneur en défendant la veuve et l'orphelin et qui se sentait plein de lui-même et tout content de sa vie, qui fait de cet homme, de cet avocat, un juge pénitent, c'est-à-dire un homme que son désespoir et sa culpabilité rendent perméable enfin aux douleurs qui lui sont épargnées. Donc on est ici clairement dans le même registre, et il n'est pas douteux que la chute a été inspirée à Albert Camus par ces deux lignes sobres où Balzac voit toute la poésie et le génie du monde. Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du Pont des Arts. Mais enfin, Raphaël de Valentin ne se suicide pas.
Du moins, pas maintenant.
Du moins, pas maintenant, comme lui dira le vieillard du magasin. Après tout, vous vouliez mourir, eh bien, votre suicide n'est que retardé et on verra de quelle façon ça se passe. Si vous en êtes d'accord, Paola, entrons dans le magasin.
Madame du Barry peinte au pastel par la tour. Une étoile sur la tête, nue et dans un nuage, paraissait contempler avec concupiscence une chibouque indienne en cherchant à deviner l'utilité des spirales qui serpentaient vers elle. Les instruments de mort, poignards, pistolets curieux, armes à secret, étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie, soupières en porcelaine, assiettes de saxe, tasses diaphanes venues de Chine, salières antiques, drageoires féodaux. Un vaisseau d'ivoire voguait à pleine voile sur le dos d'une immobile tortue. Une machine pneumatique éborgnait l'empereur Auguste, majestueusement impassible. Plusieurs portraits d'échevins français, de bourgmestres hollandais, insensibles alors comme pendant leur vie, s'élevaient au-dessus de ce chaos d'antiquité en y lançant un regard pâle et froid. Tous les pays de la terre semblaient avoir apporté là quelques débris de leur science, un échantillon de leurs arts. C'était une espèce de fumier philosophique auquel rien ne manquait. Ni le calumet du sauvage, ni la pantoufle vert et or du sérail, ni le yatagan du mort, ni l'idole des tartares. Il y avait jusqu'à la blague à tabac du soldat, jusqu'au ciboire du prêtre, jusqu'aux plumes d'un trône. Ces monstrueux tableaux étaient encore assujettis à 1000 accidents de lumière par la bizarrerie d'une multitude de reflets dû à la confusion des nuances, à la brusque opposition des jours et des noirs. L'oreille croyait entendre des cris interrompus, l'esprit saisir des drames inachevés, l'œil apercevoir des lueurs mal étouffées. Enfin, une poussière obstinée avait jeté son léger voile sur tous ces objets, dont les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques. L'inconnu compara d'abord ces trois salles gorgées de civilisation, de culte, de divinité, de chef-d'œuvre, de royauté, de débauche, de raison et de folie, à un miroir plein de facettes, dont chacune représentait un monde. Après cette impression brumeuse, il voulut choisir ses jouissances. Mais, à force de regarder, de penser, de rêver, il tomba sous la puissance d'une fièvre, due peut-être à la faim, qui rugissait dans ses entrailles. La vue de tant d'existences nationales ou individuelles, attestée par ces gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir les sens du jeune homme. Le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé. Il sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal, arriva dans les palais enchantés de l'extase, où l'univers lui apparut par bribes et en traits de feu, comme l'avenir passa jadis flamboyant aux yeux de Saint Jean dans Patmos.
On voit en écoutant cet extrait que Balzac se plaît.
Vous avez tout à fait raison de dire qu'on voit en écoutant cet extrait.
Oui, on voit beaucoup de choses.
On voit beaucoup de choses.
Et en même temps, on ne voit rien. C'est assez confus. Mais en tout cas, ce qu'on pressent, c'est que Balzac se plaît à anticiper sur la suite du roman.
Pourquoi
nous laissant quelques indices. Par exemple, cette phrase, le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé. Avant même que la partie fantastique du roman, c'est-à-dire la peau de chagrin, cet objet
qui exauce les désirs au dépens de la vie.
avant même que cela fasse irruption dans le roman, cette idée de désir et de réalisation du désir est mise en scène dans cet extrait.
Oui, alors vous avez d'autant plus raison, il y a une espèce d'illusion rétrospective. Alors je ne sais pas si c'est une illusion, je crois que c'est un effet de rétrospection, comme il y a très souvent d'ailleurs dans La Recherche du Temps Perdu, hein, où on sent que le narrateur, sachant où il va, pose quelques jalons, quelques banderilles ici et là, que les Anticorridas me pardonnent cette métaphore infâme, pose quelques banderilles ici et là, en attente de l'événement qu'il laisse pressentir. Et effectivement, c'est le cas ici. Mais il y a dans La Peau de Chagrin, pour rebondir sur votre remarque si pertinente, Paola, il y a dans La Peau de Chagrin un rapport au temps tout à fait étrange. D'abord dans la composition même du livre, puisque le récit de ce voyage, de ce périple immobile à l'intérieur du magasin et de ses trois étages et de la discussion avec ce vieillard qui lui remet le talisman que Raphaël accepte de prendre, qui le rend puissant aux dépens de sa vie, le récit de cela précède dans la structure du livre, je l'ai dit tout à l'heure, le récit que Raphaël fera au sein de son orgie, de ses amours déçus et de la trahison de Fedora. Donc il y a déjà un effet de rétrospection inévitable puisque, au fond, on voit Raphaël au terme de son calvaire, de son calvaire mondain, de son calvaire social, de son calvaire parisien et de son calvaire sentimental. Donc Raphaël est au milieu en fait de son destin, puisque premier temps de sa vie, Fedora éconduit ce jeune homme ambitieux. Deuxième temps, il est désespéré, il veut se suicider, il rentre dans le magasin, il récupère La Peau de Chagrin. Troisième partie du livre, l'agonie, l'histoire d'un homme qui, furieux de sa funeste puissance, s'organise de manière à ne plus rien désirer, c'est-à-dire à vivre le plus longtemps possible. Donc il y a un premier effet, si vous voulez, d'inversion du temps, c'est-à-dire que la chronologie objective n'est pas celle de la composition du livre. Mais à cet effet-là s'ajoute un second effet, me semble-t-il, plus frappant encore concernant le temps lui-même et qui justifie justement ces points d'attente que Balzac distille dans son texte, c'est le fait que une fois que Raphaël de Valentin disposera de La Peau de Chagrin, son premier souhait sera, on le verra peut-être, d'avoir un grand banquet avec des femmes, des prostituées, avec des vins de toutes les couleurs, de toutes les qualités, avec des bons amis qui hurlent, un banquet décadent, un banquet où le néant se distille en arabesque et en considération subtile et ivre sur le sens de la vie ou sur le non-sens des décisions qu'on prend. Bon, donc il souhaite tout ça. Votre premier souhait est vulgaire, lui dit le vieillard, je pourrais l'exaucer moi-même, mais bon, voilà. Il souhaite ça, et une fois qu'il a souhaité ça, il sort à ce moment-là du magasin et il tombe, comme par hasard, sur trois amis qui se disent eux-mêmes les serviteurs de Méphistophélès. La référence à Faust est évidente, c'est un livre, ce livre est une parodie de Faust. Les serviteurs de Méphistophélès, c'est-à-dire les serviteurs de l'esprit qui toujours nie de cette version du diable qui considère que tout ce qui vit doit un jour être détruit. Donc ces gens-là se présentent eux-mêmes comme les serviteurs de Méphistophélès, mais surtout le fait qu'ils les croisent et que ensuite ces individus emmènent Raphaël de Valentin au banquet qu'il appelait de ses vœux, peut-être lu comme un hasard, mais peut-être lu aussi comme un désir qu'il a exaucé. En d'autres termes, en souhaitant un banquet fastueux, Raphaël de Valentin fait advenir rétroactivement, et c'est là qu'il y a un effet de rétrospection qui est justifié dans le livre, fait advenir rétrospectivement la série des circonstances qui vaut aux trois individus de tomber sur leur ami qu'ils cherchaient, comme par hasard, pour l'emmener dans ce banquet. En d'autres termes, il crée rétroactivement un monde. Il est en position divine puisqu'il légifère non seulement sur le présent et l'avenir, mais également sur le passé, puisqu'il a besoin pour cela de faire advenir les circonstances qui font que son souhait sera réalisé. Donc, quand Raphaël de Valentin dispose du pouvoir absolu, ce qui va lui arriver à ses dépens, quand il dispose du pouvoir absolu, un pouvoir bien trop vaste pour ses petites épaules d'humain mortel, quand il dispose du pouvoir absolu, du pouvoir de Dieu, il légifère également sur le passé. C'est-à-dire que dès l'instant où il possède la peau de chagrin, eh bien, de toute éternité, les amis qui le cherchaient et passeront devant la boutique au moment où lui-même en sortira comme un fou et avant de l'emmener dans ce banquet. Ce qui justifie, je crois, donc il y a vraiment deux raisons au fait que dans le texte, Balzac pose à l'avance quelques informations sur ce qui va arriver ensuite ou laisse entendre ce qui arrivera ensuite. Il y a d'autres formules d'ailleurs qui le disent. Quand il dit « les instruments de mort y étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie », puisque c'est tout l'enjeu, le désir de vivre davantage, le désir de, comme il le dit, hein, « je veux vivre avec excès », dit Raphaël de Valentin en saisissant la peau de chagrin, ce désir de vivre avec excès est un désir mortifère. Donc le simple fait de mêler les deux dans l'énumération des objets du magasin renseigne là-dessus également. Mais encore une fois, ce procédé vient du fait qu'à un moment, Raphaël de Valentin a le pouvoir d'un dieu qui peut légiférer sur le passé comme sur l'avenir.
Vous avez parlé d'excès, vivre avec excès. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore eu le temps de parler, c'est justement le partage entre dépenses et économie dans le roman.
Voulez-vous dire ?
On pourrait croire, on peut penser à la jeunesse de Raphaël qui vit comme un reclus dans sa mansarde avec très peu d'argent, avec l'éducation de son père qui lui a appris à pas dépenser. Et puis tout d'un coup, à partir du moment où il a la peau, on pourrait s'attendre à ce qu'il se mette à dépenser sans compter, etc. Mais on voit qu'il est très avare dans la suite du roman en désir. Il a beaucoup de mal à accorder des désirs et à partir du moment où il a conscience que la peau rétrécit, il fait très attention et il continue à être très économe. Il n'est pas dans la dépense et dans l'excès.
Mais vous avez tout à fait raison. Son premier geste, après avoir souhaité un banquet fastueux et constater que le banquet lui arrive à la gueule, hein, puisque c'est ça qui se passe, que comme par hasard, le banquet qu'il avait appelé de ses voeux advient, avant de s'endormir dans les bras d'Aquilina et d'Euphrasie, des deux prostituées diaboliques du banquet, dont le discours est édifiant, avant de s'endormir, il dit « je suis Néron, je suis Nabucodonosor, je peux faire ce que je veux, d'ailleurs, demain matin, je serai le plus riche des hommes ». Bien, il s'endort là-dessus. Le lendemain matin, un notaire arrive en lui disant « n'êtes-vous pas le neveu d'un oncle, Barbe-Marie, je ne sais plus, mort en Amérique, bon, etc., etc. » Bref, vous héritez, vous êtes à la tête d'une fortune considérable. Et là, Raphaël de Valentin se jette comme un fauve sur la peau de chagrin et constate que la peau de chagrin dont il avait dessiné le contour en la posant sur une feuille de papier la veille, que la peau de chagrin a sensiblement rétréci. Et là, il est frappé au cœur, et à cet instant, alors d'abord, son premier geste, c'est bien naturel d'ailleurs, c'est de boire pour, comme dit Balzac, oublier un peu sa funeste puissance. Et puis, ce sera tout le récit de la troisième partie du livre, appelée l'agonie. Son second geste, qu'il ne fera que prolonger avant d'essayer par la science d'agrandir la peau de chagrin, puis ensuite de céder au vertige du désir qu'il peut avoir, non pas pour Fedora, mais pour la petite Pauline de Vichno, dont il était en réalité véritablement amoureux, qui est sa madame de Rénal, au fond. Avant de céder à cela, Raphaël de Valentin se prend un hôtel particulier et avec un mécanisme extrêmement élaboré qui lui permet de ne rien souhaiter, mais attention, de ne pas même souhaiter qu'une porte s'ouvre. Si tout à l'heure, quand nous aurons fini cet enregistrement, nous sortirons du studio, Paola, en tendant la main pour ouvrir la porte, que ce soit moi qui vous ouvre la porte ou bien vous-même qui ouvrez la porte, si infime soit-il, vous aurez ou j'aurai le désir d'ouvrir la porte. Eh bien, ce désir-là même, Raphaël de Valentin s'arrange pour ne plus avoir à l'éprouver. Il s'organise de telle manière que les choses lui adviennent sans qu'il le désire, que les choses lui parviennent avant même qu'il les souhaite, car il sait bien qu'il ne peut pas ne pas souhaiter des choses si minuscules soient-elles. Donc, c'est quelqu'un qui s'évertuera ensuite à tuer son désir. Et on est au cœur du paradoxe. Voilà un homme qui voulait mourir, à qui on propose non seulement de vivre un peu plus, et surtout de vivre comme le plus fastueux des hommes, avant que son premier souhait, son premier désir soit exaucé, puisque le premier des désirs que la peau de chagrin exauce, c'est de mourir, puisque c'est comme ça que ça finit. Pardonnez-nous, chers auditeurs, c'est un livre qui n'a pas de suspense. Hein. Raphaël de Valentin meurt à la fin, et il meurt de désir, précisément pour Pauline. Il meurt en lui mordant le sein. Cet homme qui voulait mourir, on lui propose de mourir, mais de vivre avant, et sachant qu'il est condamné, veut absolument vivre le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'il suffit à un suicidé, il suffit à un homme qui veut se suicider. C'est ça le paradoxe, et je laisse nos auditeurs méditer sur ce paradoxe. qui renseigne, à mon avis, sur ce que Pascal dit des hommes qui vont chercher le bonheur, même ceux qui vont se pendre, dit Pascal. Un homme qui veut, il suffit à un homme qui veut se suicider, qu'on lui promette de mourir un jour, pour qu'à l'envie de se suicider se substitue l'envie pathétique, encore plus pathétique, de vivre le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs, Paola, pardon, j'avais pas prévu de dire ça tout de suite, mais après tout, on en parle. C'est d'ailleurs, je crois, le fond de La Peau de Chagrin, parce qu'on a voulu lire La Peau de Chagrin comme un remix de Faust et un avant-goût de Dorian Gray. Bon, c'est pas absurde, hein, puisque c'est vraiment la même veine, il n'y a pas de doute, on est dans le pacte avec le diable. Bien. Et dans ce qu'il coûte, avec des variantes, puisque Raphaël de Valentin épargne Pauline, alors que Faust a plus de mal avec Marguerite. Enfin, il y a des variantes. Mais enfin, ce sont des versions du pacte avec le diable. Alors, on peut lire ce livre comme une condamnation du désir, c'est-à-dire une version judéo-chrétienne de la condamnation du désir. Tout ce qu'on désire et qu'on exauce nous coûte quelque chose. Voilà.
Ce qui est dans la parole, dans le discours de celui qui lui vend, du vieillard qui lui donne la peau de chagrin.
C'est dans le discours de celui qui lui donne la peau de chagrin, c'est également dans le discours de la peau de chagrin elle-même. Pour mémoire, hein, la peau de chagrin, c'est l'âne, le chagrin, c'est de la peau d'onagre. C'est la peau du cul d'un âne, d'ailleurs. C'est intéressant parce que ça renseigne sur l'expression « coûter la peau du cul », ce qui n'est pas du tout pareil que « coûter un bras ». Quand quelque chose vous coûte un bras, c'est très embêtant, c'est désagréable, c'est ennuyeux, c'est une amputation, etc., etc. Mais c'est moins fort que de dire « ça coûte la peau du cul ». Or, dire que ça coûte la peau du cul, c'est dire « c'est la peau de chagrin ». Parce que c'est la peau de la croupe d'un âne, la peau du chagrin. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le cul de l'âne ?« Si tu me possèdes, tu posséderas tout ». Mais ta vie m'appartiendra, Dieu l'a voulu ainsi. Désire et tes désirs seront accomplis, mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu ? Prends, Dieu t'exaucera, soit. Et alors, ce qui est fort ici, c'est, me semble-t-il, règle tes souhaits sur ta vie. Parce que, encore une fois, on peut donner de ce texte une lecture judéo-chrétienne. Plus tu désires, plus tu t'abîmes en obtenant ce que tu désires. Bon, plus tu fumes, plus tu t'abîmes en fumant ce que tu fumes. Plus tu bois, plus tu t'abîmes en buvant ce que tu bois, etc., etc. C'est-à-dire que le plaisir et le désir est coupable. Disons que le désir et son corps est là. C'est-à-dire le plaisir qui accompagne la réalisation du désir est coupable. Bon, on peut le lire comme ça. Je crois que c'est plus grave ce qui arrive à Raphaël de Valentin. C'est pas seulement que le désir lui coûte, parce que, bon, si c'était que ça, il n'y aurait qu'une différence de degré entre ce qui lui arrive et nous. Au fond, on en est tous là, quand on fume une cigarette, on se grille un peu de vie, enfin, je veux dire, on en est tous là. Non, je crois que le vrai problème, c'est que, du coup, il ne peut souhaiter qu'une augmentation quantitative de sa vie, c'est-à-dire que c'est la vie elle-même est indexée sur son désir, règle tes souhaits sur ta vie. Ça veut dire que, par cette équation exorbitante du désir qui s'exauce aux dépens de la vie, Balzac introduit un rapport de commensurabilité entre la vie et le désir. En d'autres termes, entre un désir dont les quantités peuvent être évaluées, je veux un banquet, je veux des femmes, je veux de l'or, je veux ci, je veux ça, bon, et une vie dont la valeur est précisément d'être inévaluable. Or, ce que La Peau de Chagrin fait, c'est qu'il rend sa vie quantifiable. Et que surtout, il ne lui offre, elle ne lui laisse comme seule alternative qu'un prolongement indéfini et vraiment avec les dents pathétiques de sa petite existence. C'est-à-dire que sa vie, au fond, à partir du moment où il peut obtenir tout ce qu'il désire, n'a plus rien à lui offrir que des désirs, certes, qu'il peut obtenir, mais surtout qu'une toute petite, minuscule, infime et perdue d'avance augmentation de la durée des jours. Le pacte qu'il signe avec le diable n'est pas seulement une façon de concevoir comme coupable le plaisir ou la réalisation des désirs qui sont les siens. Le pacte qu'il signe avec le diable réduit son existence à sa forme la plus triste, c'est-à-dire à une quantité. Sa vie n'est plus qu'une quantité. Vous vous souvenez, Paola, quand on avait parlé de Sénèque, l'essai de Sénèque sur le discours de Sénèque sur la brièveté de la vie. Sénèque disait, c'est pas la vie qui est brève, c'est nous qui sommes prodigues avec elle. Autrement dit, un individu non pas plus avare de lui-même et plus dispendieux avec ce qu'il possède. C'est-à-dire que le propos de Sénèque, c'est de dire, on est prodigue avec ce qu'on est, Et on est avare avec ce qu'on possède. On ne veut pas donner ses affaires, mais en revanche, on veut bien perdre son temps. Or, dit Sénèque, c'est tout le problème. Il faudrait au contraire être avare de son temps et prodigue de ce qu'on possède, parce que ce qu'on possède, on ne va pas l'emmener dans la tombe. Et donc il dit, la brièveté de la vie dépend de nous, car il dépend de nous de remplacer l'avoir par l'être, le culte de la possession par le fait de bien vivre, de mener une vie bonne. Or, c'est exactement ce choix-là qui est interdit à Raphaël de Valentin. Raphaël de Valentin n'a plus la liberté de réformer son existence en remplaçant le désir de la possession par le désir de vie, puisque le désir de vie ne prend chez lui que la forme misérable d'un désir de vivre encore un peu plus. C'est tout ce qu'il a, au fond. Et donc cet homme, riche entre tous, puissant entre tous, est aussi le plus pauvre de tous, puisqu'il est le seul à qui la vie n'offre pas la possibilité d'échapper à la quantité. C'est ça sa condamnation, c'est ça son drame, c'est ça sa malédiction.
France Culture, le Gai Savoir.
Raphaël Antoven.
Je disais au tout départ dans mon chapeau, Raphaël, que c'était un roman de l'urgence. Et nous aussi, en fait, dans cette émission, on est pris à court par le temps. On est pris de court par le temps. Et donc,
ce qui est une façon de mettre en abîme le propos même du livre, d'ailleurs.
Exactement.
On est au tout début du livre. On est au tout début du livre, ça n'a aucune importance. On y reviendra, on est totalement libre. Vous savez comme moi, Paola, que nous avons cette liberté inouïe au Gai Savoir de parler de livres qui, débarrassés de l'actu, si j'ose dire, permettent qu'on y revienne indéfiniment.
Alors, que fait-on ? Est-ce qu'on tente d'aller vers le banquet ? Ou est-ce qu'on fait un retour en arrière comme le fait lui-même Raphaël, puisqu'on reste dans la mise en abîme pour raconter son histoire à son ami Émile ? Est-ce qu'on retourne un petit peu vers le cabinet de curiosité parce qu'on a lu un passage qu'on n'a pas eu le temps de commenter ?
Avec la Du Barry peinte au pastel par la tour.
Voilà. Que préférez-vous ?
C'est une question rhétorique, on reste dans le magasin, on retournera dans le banquet. Je vous promets, Paola, une orgie décadente, une partouze insensée dans la prochaine émission. Mais pour l'heure, restons dans le magasin, parce que c'est une autre forme de débauche.
J'exauce votre souhait.
Merci.
Il faut rappeler quand même que Raphaël est sous l'emprise de la faim, qu'il n'a pas mangé certainement depuis et de la maladie, il est faible. Donc il est un petit peu comme serait quelqu'un sous l'emprise d'une drogue, je ne sais pas, du haschich, un truc un peu baudelairien.
Une chambre qui ressemble à une rêverie.
Voilà.
C'est la chambre double dans les petits poèmes en prose.
Et oui, percée à jour.
Une chambre qui ressemble à une rêverie. Une chambre véritablement spirituelle où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu. L'âme y prend un bain de paresse, aromatisé par le regret et le désir. C'est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosâtre. Un rêve de volupté pendant une éclipse. Ceux de nos auditeurs qui ont l'habitude de consommer du haschich, si j'en crois les statistiques, ils sont assez nombreux. Ceux de nos auditeurs qui ont cette habitude savent que Baudelaire décrit ici à merveille l'espèce d'intervalle ou d'intermédiaire, de légère altération de la conscience sous l'effet du haschich qui, comme dit Baudelaire, revêt le monde d'une intensité d'intérêt. Le poème en question s'appelle « La chambre double ». C'est dans les petits poèmes en prose.
Et ce qui pourrait être similaire à ce poème et à cette expérience baudelairienne dans le passage du cabinet de curiosité, c'est cette dilatation du temps, des sensations.
Alors, non seulement une dilatation, oui, dilatation du temps, puisqu'il prend un temps fou à décrire cela. C'est-à-dire que la description de la pension Vauquer à côté, c'est on dirait un vestiaire de foot. Je veux dire, c'est inouï le temps qu'il prend, que Balzac prend.
Et ça semble gratuit, d'autant plus que ça n'a pas tellement d'importance. Si on parle en termes d'économie du récit, ça n'a pas tellement d'importance. Tous ces retours en arrière sur les époques précédentes, l'Égypte antique, etc.
Ouais, ça semble gratuit, mais ça ne l'est pas. Je crois pas. En amont du passage sur la Du Barry, enfin qui commence avec la Du Barry, Balzac dit
« Il était poète et son âme rencontra fortuitement une immense pâture. Il devait voir par avance les ossements de 20 mondes. Au premier coup d'œil, les magasins lui offrirent un tableau confus dans lequel toutes les œuvres humaines et divines se heurtaient. Des crocodiles, des singes, des boas empaillés souriaient à des vitraux d'église, semblaient vouloir mordre des bustes, courir après des lacs ou grimper sur des lustres. Un vase de Sèvres, où Madame Jacotot avait peint Napoléon, se trouvait auprès d'un sphinx dédié à ses ostrices. Le commencement du monde et les événements d'hier se mariaient avec une grotesque bonhomie. Un tournebroche était posé sur un ostensoir, un sabre républicain sur une hackbutte du Moyen-Âge.
Ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que Balzac décrit, vous savez, c'est un procédé courant en littérature, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, et on est contraint quasiment de finir dessus, mais c'est un procédé courant en littérature d'écrire une âme en décrivant un paysage. Mais il y a ceux qui le font à la façon des romantiques. C'est-à-dire, il y a ceux qui le font, au fond, à la façon de ceux qui prennent leurs désirs pour des réalités, justement. C'est-à-dire qui impriment au paysage le reflet de leur humeur. Bon. Et puis, il y a une façon plus subtile, je crois, de le faire, qui est également, d'ailleurs, répartie entre Balzac et Flaubert. Flaubert, quand il décrit la casquette de Charles, décrit le visage de Charles, cette casquette qui a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. C'est le visage de Charles Bovary. Et pourtant, il n'y a rien dans cette description qui relève d'une complaisance mélancolique de Charles Bovary qui voudrait s'identifier au monde qui l'entoure, à commencer par l'espèce de casque qu'il a sur les genoux, qu'il garde sur ses genoux parce qu'il ne sait pas quoi en faire.
C'est plutôt de l'ordre d'une diffraction du moi dans le monde.
Exactement. Exactement, c'est une diffraction du moi dans le monde, c'est-à-dire que c'est au lieu de la représentation vorace d'un monde qui conforme au tempérament désespéré d'un homme qui voudrait prendre ses désirs pour des réalités, identifie le monde à son humeur, il y a l'expansion d'un moi qui, confronté à l'imminence ou à l'imminence de sa mort, se trouve diffracté, dilué, déconstruit dans son identité et donc par là même répandu dans le monde entier. Et c'est à cette seconde façon, je crois, qu'obéit celui qu'indûment on a présenté comme romantique d'ailleurs, Honoré de Balzac. Que fait Balzac ? Il décrit une âme en décrivant un décor. Il décrit un cœur en se contentant d'énumérer ce qu'il a sous les yeux. C'est un autoportrait par l'énumération. Et pourtant, il ne dit rien de plus que ce qu'il a sous les yeux. Mais la façon dont il le dit, c'est un peu comme un journaliste qui éditorialise en serriant l'ordre des priorités des choses ou des informations qu'il transmet. Balzac éditorialise, c'est-à-dire que la façon qu'il a de présenter les œuvres humaines et divines, le heurt des œuvres humaines et divines, les boas, les bustes, les lustres, les vases, le sphinx, la proximité de Napoléon et d'un sphinx qui pourtant n'a rien à voir avec Napoléon mais qui est au contraire un hommage à un dieu de l'Égypte ou à un pharaon égyptien, tout cela est un renseignement sur l'âme de Raphaël de Valentin dont il dit du coup, puisque c'est d'elle qu'il parle, que c'est un tableau confus. Et pour aller plus loin dans ce sentiment-là, j'attire l'attention de nos auditeurs, vraiment les invitant à relire cette première partie extraordinaire de La peau de chagrin.
Le talisman.
Oui, le talisman. J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que, après avoir décrit donc le vase, le sphinx, etc., énuméré en les décrivant le vase, le sphinx, le tournebroche, le bordel du magasin, bordel qui n'est pas encore un bordel au sens que le bordel peut avoir, le lexique change un tout petit peu, imperceptiblement, pour remplacer les verbes statiques et la simple énumération des choses par du mouvement, par de la mobilité. Et souvenez-vous, Paola, au début du livre, on avait observé que Raphaël de Valentin, en proie à la faim, vous avez raison, accède à la fluidité des phénomènes et que tout se met à ondoyer. Or, quel est le lexique dans le passage qui commence par Madame du Barry peinte au pastel par la tour ? Le lexique, c'est « elle contemple, le vaisseau d'ivoire vogue, la machine pneumatique éborgne, les portraits d'échevins français s'élèvent au-dessus d'un chaos d'antiquité, lancent un regard. » Et puis, un peu plus loin, il parle d'un miroir plein de facettes. En d'autres termes, Raphaël de Valentin est celui que son désespoir, sa faim, et également son tempérament extatique, la mauvaise route de l'extase, c'est celui à qui tout cela dicte une conscience de la mobilité des choses alors qu'elles sont tout simplement posées devant lui. C'est un homme que la promesse de mourir, puisqu'à cet instant-là, il veut se suicider et il ne fait que tuer le temps, bizarrement, cette procrastination, c'est la seule procrastination en vérité dans le livre, c'est le moment où il visite le magasin, je crois. Cet homme-là, la promesse de mourir, aiguise son regard au point de le rendre perméable à la mobilité des choses. Et là où ça coince, c'est que, et le passage se termine comme ça, Raphaël de Valentin sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal, arriva dans les palais enchantés de l'extase où l'univers lui apparut par bribes et entrées de feu comme l'avenir passa jadis flamboyant aux yeux de Saint-Jean dans Patmos. C'est là, si vous voulez, qu'il est, lui, romantique, non pas l'auteur du livre, mais lui, le personnage du livre, le personnage principal, le seul personnage du livre, puisqu'au fond, tous les autres personnages deviennent rétroactivement les créatures de son rêve. C'est là que le personnage de ce livre confesse implicitement dans la façon dont les objets nous sont présentés, sous son regard, confesse implicitement la route qui lui vaut de ne contempler les merveilles de la boutique que pour renouveler en lui-même l'envie d'en finir avec la vie. C'est la même route qui lui vaudra, à la fin du banquet, dans une discussion avec son camarade Émile, ce qui est une référence à Jean-Jacques Rousseau, évidente, la même route qui lui vaudra de dire à Émile que l'athéisme est un squelette infécond. C'est la même route qui lui vaut de vouloir vivre avec excès au lieu de mourir. C'est la route romantique du désir pensé comme manque et qui culmine dans le sentiment faux entre tous que le monde qui l'entoure est le miroir exact de son âme. Moi, quand j'ai lu ce livre plusieurs fois, plusieurs moments de la vie, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça jusqu'à ce qu'on me le dise, jusqu'à ce qu'on me l'apprenne. C'est-à-dire, c'est un livre, vraiment, ce livre... si facile à lire, hein, je veux dire, dont la narration est passionnante, palpitante, et qui ne quitte pas son lecteur, et qui ne sort pas de sa vie une fois que le lecteur est entré en lui. Ce livre, si difficile à lire, est un livre où il faut des éducateurs pour ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre où il faut que quelqu'un vous dise à quel point il est parfois important de savoir pour voir. Et que si l'on ne sait pas cela, si l'on n'a pas pris la mesure du débat, au fond, qui oppose Pascal au romantique de son temps, et de ce débat auquel s'ajoute le désenchantement des années 30, 1830, le désenchantement d'une jeunesse qui rêve d'absolu et qui se voit confortée dans une sorte de bourgeoisie Louis-Philippard sinistre, si l'on ne prend pas la mesure de ce désarroi, je crois qu'on ne prend pas la mesure de l'abîme qui sépare, non pas les désirs de Raphaël de leur réalisation, parce que ça, il y arrive, puisqu'il a la peau de chagrin dans les mains, mais l'abîme qui sépare le désir de prendre ses désirs pour des réalités de la capacité que seuls les sages ont en partage à prendre, à l'inverse, la réalité pour son désir.
J'en profite pour remercier François Connac, Alice Ramon, Jai Zantaous, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. C'est dans 15 jours, et non la semaine prochaine, que nous vous parlerons de l'orgie infernale qui attend Raphaël de Valentin, puisque la semaine prochaine, l'équipe du Yes Savoir, à qui le temps manque parfois, vous propose de réentendre l'émission que nous avions consacrée à la question de l'homophobie, cet inépuisable réservoir de bêtises. Rendez-vous la semaine prochaine et dans 15 jours donc. Et si dans l'intervalle la philosophie vous manque, vous pouvez nous retrouver sur Internet où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et bibliographie. Vous pouvez également vous promener dans les pages du 85e numéro de Philosophie Magazine, notre partenaire qui ce mois-ci vous propose tout simplement de reprendre votre destin en main. Ainsi qu'un dossier consacré, c'est le cas de le dire, à la question du temps dans l'œuvre de Saint-Augustin. Philosophie Magazine, disponible dans tous les kiosques dignes de ce nom. Enfin, vous pouvez, vous devez arpenter les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, vous proposeront cette semaine de confronter science et littérature. Un hommage enfin à la voix de Jacques Roland, merveilleux lecteur de La Peau de Chagrin, qui nous accompagne pendant ces deux émissions. Sur France Culture, dans un instant, l'atelier du pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.